Aimez vos ennemis, titre de cette réflexion ce matin. Voilà un commandement qui nous pose un sacré problème. Comment aimer ses ennemis? Comment un soldat ukrainien aujourd'hui peut-il aimer un soldat russe? Comment un soldat palestinien peut-il aimer un soldat israélien? Ou l'inverse? Comment faire la différence entre l'être humain qui est sur notre chemin et ce qu'il représente, souvent par la contrainte, dans son rôle d'ennemi? Est-ce même légitime d'aimer ses ennemis? Où est la justice quand l'ennemi devient aimable? Quel programme! Jésus nous donne dans l'évangile de ce matin une tâche bien difficile. Pardonner et faire du bien à ceux qui nous ont fait du tort. Comment vivre ce texte sans perdre tout respect de soi? Il semble que ce qui nous est demandé, c'est d'être toujours bon et d'accepter finalement tout ce qui peut nous arriver, quoi qu'on nous fasse. Ce texte du jour est la suite du récit des Béatitudes que nous avons commenté la semaine dernière. C'est la conclusion du récit de Luc qui ouvre le message central auquel il nous est demandé de parvenir. D'aimer nos ennemis, d'aimer tout humain, quel qu'il soit et quel qu'il ait fait vis-à-vis de nous. Mais c'est quoi un ennemi? Quelle définition peut-on donner? À partir de quand l'autre, celui avec lequel on pouvait cohabiter sans plus de difficultés, devient un ennemi? Par quel mécanisme a-t-on un ennemi? Alors, il y a, je pense, d'abord une incompréhension évidente si on considère l'histoire des peuples. Et après, on parlera d'une dimension plus individuelle. Cette histoire des peuples, quand deux peuples s'affrontent, ce que j'appellerais le plan collectif. Dans les textes de l'Égypte ancienne, par exemple, l'ennemi, c'est l'étranger, tout simplement. Pas plus que ça. Puisqu'il représente le peuple voisin, celui qu'il faut combattre et puis celui qu'il faut envahir. Dans les textes égyptiens, c'est la nature mauvaise des ennemis qui les fait conspirer contre le pouvoir du pharaon. Et puis, cette conception sert les intérêts d'un pouvoir dominant et permet de justifier une politique expansionniste pour ces fameux Égyptiens. Très souvent, les grandes puissances qui envahissent les petits royaumes se présentent comme des bienfaiteurs, prétendent leur faire une grâce en traitant avec eux dans des pactes de paix, dans des accords, oubliant que les peuples qui sont asservis y perdent de leur liberté. Quand les rois des royaumes asservis, les vassaux, se rebellent et tentent de faire valoir leurs droits, alors ils sont traités de traîtres, ils sont traités de rebelles ou de méchants. L'ennemi est donc une figure construite dans un but d'hégémonie et de vassalisation de peuples jugés inférieurs à une grande puissance. Alors l'exemple de l'invasion de l'Ukraine en est une illustration flagrante pour justifier la vision, par exemple, d'une grande Russie dominante. La guerre et la conquête que nous avons vécues dans tant de siècles passés participent à construire l'identité nationale d'un peuple contre un autre. Ils marquent les contours d'un peuple qui serait dit civilisé, supérieur aux autres, capable de dominer les autres. C'est ainsi qu'on en est arrivé au nationalisme et à ses dérives, des guerres au génocide. Alors comment dans ces cas-là sortir de ces dérives? Comment aimer nos ennemis? Sans remonter au massacre des innocents sous Hérode, que pouvaient bien penser nos ancêtres du XXe siècle? Du massacre des Arméniens par l'État turc, de l'élimination systématique dans les camps de concentration nazis des Juifs d'Europe? Que pouvaient-ils penser face aux assassinats non moins monstrueux des opposants au régime soviétique dans les goulags? Ou plus proche de nous encore, comment demander d'aimer ses ennemis aux survivants et à leurs proches victimes des attentats de 2015? De Clarissa Jean-Philippe, notre policière municipale ici à Montrouge, ou tout récemment aux familles d'adolescents victimes d'attaques au couteau. Litanie de violence en permanence. Lueur d'espoir, peut-être, oui. Malgré cela, certains textes de la Bible témoignent d'une prise de conscience salutaire. Ainsi, dans le livre de Samuel que nous avons lu, c'est l'histoire de la jalousie du roi Saül qui veut la mort de David. Vous l'avez noté. Il le traque car tout le peuple a chanté « Saül a vaincu des milliers, mais David a tué des dizaines de milliers d'ennemis. » Alors, de nuit, David dérobe la lance de Saül pendant son sommeil posé près de sa tête. Mais il respecte la vie du roi Saül car il a reçu l'onction du Seigneur. Il ne se venge pas, il ne touche pas à la vie du roi Saül. Il y a eu aussi plus récemment, heureusement, des exemples de réconciliation entre États divisés. C'est ce qui s'est passé en Afrique du Sud ou en Irlande. C'est vrai aussi pour les guerres entre les États à partir du moment où se donnent ensemble, où ils se donnent ensemble un espace commun à, je dirais, habiter pacifiquement l'un avec l'autre. La construction européenne a permis la réconciliation entre la France et l'Allemagne par une initiative sans précédent qui a permis de faire de l'étranger, de l'ennemi d'hier, un proche et un partenaire partageant un destin commun. Ce destin commun que nous sommes toujours en train de construire dans cette Union européenne en devenir. Peut-être que vivre ce commandement d'amour des ennemis est-il possible en ouvrant aussi une voie entre la mémoire et l'oubli. La mémoire afin de rester vigilant sur notre avenir en tant que peuple et pour rester attentif au respect de celui qui est différent de nous, celui qui est autre, mais qui a sa place dans notre espace commun. C'est ce qu'on appelle le vivre ensemble. Non pas par une mémoire de martyr qui brandirait la violence passée comme une justification d'une identité qu'il faudrait défendre à tout prix, mais comme celle d'un témoin, d'une histoire qui puisse nous aider à tendre vers la sagesse et interdire tout acte, tout recommencement de cette violence. Mémoire donc, mais aussi oubli nécessaire. Oubli des affronts, des outrages du passé. En homme et en femme de temps nouveau, ouvert à l'écriture d'une autre histoire avec les descendants des ennemis du passé. On ne reprochera pas aux jeunes Allemands ce qu'ont pu faire leurs grands-parents. Il existe une autre approche pour traiter la question de l'ennemi. C'est celle plus individuelle, la relation entre deux personnes, voire de notre ennemi intérieur. Au niveau individuel, on trouve dans les sagesses du Proche-Orient ancien des proverbes qui invitent chacun à ne pas user de représailles contre ses ennemis. Il y a par exemple ce texte issu de la collection de proverbes datant de l'époque perse sous Sargon II, à la fin du deuxième millénaire avant Jésus-Christ. C'est très vieux. Je cite « Confronté à une dispute, va-t'en, ne t'en occupe pas. Si la dispute te concerne, éteins ce qui s'enflamme. À ton adversaire, ne rends pas le mal. Celui qui te fait du tort, fais du bien en échange. À ton ennemi, laisse la justice se faire. Laisse ton oppresseur se réjouir à ton sujet et, s'il te jalouse, fais-lui des largesses. » Quelle sagesse ! Et on retrouve ici le même discours que celui de Jésus 2000 ans plus tard. Et cela répond à une autre logique que la logique politique. Il n'y a plus ici de dimension collective d'un peuple contre un autre, mais une relation entre deux personnes. L'ennemi est ici aimé au nom de Dieu. Il est celui que Dieu aime autant que nous. Puisque le texte de Luc nous dit « Dieu est bon pour les ingrats et pour les mauvais. » Comme il est dit « Que serais-je pour juger l'autre ?» Alors évidemment, on imagine la dimension intérieure de l'ennemi. Ici, c'est le prochain, celui avec lequel on traverse un moment de vie, qu'on partage la même culture, la même langue et même le même Dieu. Comment d'ennemi qu'on était, en vient-on à se considérer comme un voisin pacifique ou comme un concitoyen dans une ville où il faut aussi faire régner une certaine harmonie? La tâche est bien difficile. L'ennemi, l'autre que tu te construis comme adversaire parce qu'il est différent, Dieu te commande de l'aimer et de lui faire du bien quand il t'a fait du mal. Qu'il soit hors de tes frontières ou qu'il soit à proximité, qu'il soit une simple connaissance ou qu'il soit dans ton cercle proche, familial par exemple. Comment y parvenir? L'Ecclésiaste ne dit-il pas lui-même « Aucun homme n'est assez juste sur terre pour faire le bien sans péché. » Pourtant, Jésus demande à ses disciples de ne pas rendre le mal pour le mal et de casser le cercle infernal de la violence, cette fameuse loi du talion que vous connaissez, de se montrer miséricordieux comme Dieu s'est montré miséricordieux avec tous. Cette voie est difficile parce qu'elle nécessite de remettre en question la justice d'une certaine rétribution pour entrer dans une autre logique, celle de la construction d'un vivre ensemble, d'une relation durable, d'un pardon toujours possible, d'un amour au sens de l'agapé, toujours souhaitable. C'est ici que je dois mentionner que l'ennemi est aussi souvent en nous-mêmes, ce que j'appellerais l'ennemi intérieur, c'est-à-dire l'ensemble de nos instincts trop spontanés, nos comportements parfois mal maîtrisés, nos mauvais penchants, ce qu'on pourrait appeler communément nos péchés. Face aux faits d'actualité, d'ailleurs amplifiés par des médias peu scrupuleux, ne sommes-nous pas tentés d'avoir un désir de vengeance, d'avoir aussi facilement de la haine envers des meurtriers? Ceci n'est qu'un exemple, mais il peut servir à nous montrer combien le chemin à parcourir peut être long et difficile, et qu'il exige un regard finalement sans complaisance sur nous-mêmes. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. N'y a-t-il pas là un appel, un devoir à travailler sur nous, pour que, en devenant meilleurs par un long et inlassable travail sur nous-mêmes, nous puissions devenir capables de nous regarder dans la glace, de nous respecter, de nous aimer nous-mêmes? Un langage moderne, on appellera ça l'estime de soi, pour être capable ensuite d'aimer notre prochain d'un amour fraternel. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. D'où peut donc venir cette capacité à nous améliorer, sinon de Dieu lui-même? Dieu qui nous a aimés le premier, et par Jésus-Christ qui s'est donné totalement pour nous sauver. Cette approche en miroir, en réciprocité, est au cœur du don total qui nous est demandé à notre tour. Un don total qui va beaucoup plus loin que le simple pardon des offenses. L'amour du prochain, dans l'enseignement de Jésus, et en particulier l'amour des ennemis, est avant tout le don d'un cœur qui a la capacité de se donner gratuitement, sans attendre en retour, nous dit le texte. Nous le savons, pour un chrétien, l'amour de Dieu est nécessairement relayé par l'amour des êtres humains pour Dieu. L'amour n'est authentique que s'il est réciproque, même dans notre vie courante avec un conjoint. Le triple commandement qui affleure partout dans les évangiles est bien celui que vous avez à présent maintenant tous en mémoire. Aimez Dieu et aimez son prochain, mais aussi aimez-vous vous-même pour puiser la force et le courage d'aimer Dieu et votre prochain, y compris votre ennemi. Vous l'avez compris, cela paraît un scandale d'aimer ses ennemis. Il heurte notre conscience du bien et du mal. Et pourtant, au-delà de la question du bien et du mal, certains chrétiens ont pu montrer qu'avec l'amour, il était possible de mener un authentique combat. Je voudrais citer ici Dietrich Bonhoeffer, qui était un pasteur allemand qui a combattu le régime nazi dès l'arrivée d'Hitler au pouvoir en 1933, au point d'être envoyé dans les camps de concentration dès 1942, puis d'être pendu en 1945. Dietrich Bonhoeffer était un résistant au nazisme, mais aussi un théologien qui s'est confronté au bien et au mal à une époque cruciale de l'histoire de notre vieille Europe. Il écrivait en 1935-1937, dans un ouvrage « Vivre en disciple », sous-titré « Le prix de la grâce », « Comment l'amour devient-il invincible ? En ne demandant jamais ce que l'ennemi lui fait, mais uniquement ce que Jésus a fait. » L'amour pour l'ennemi conduit le disciple sur le chemin de la croix et dans la communion du crucifié. Mais plus il est certain que le disciple est poussé sur ce chemin, plus il est certain que son amour demeure invaincu, plus il est certain aussi que cet amour triomphe de la haine de l'ennemi. Avec cette citation et grâce à Dietrich Bonhoeffer, cette force de ce texte extraordinaire, nous trouvons là un point culminant dans notre méditation. Lorsque l'amour triomphe de la haine de l'ennemi, il y a là une fenêtre qui peut s'ouvrir sur le pardon le plus authentique. Alors, certes, le pardon ne dispense pas de la sanction sociale et non de la justice des hommes. Le mal, même pardonné, reste toujours le mal. Et ce mal doit être réparé si possible. Le pardon, même donné à une victime, n'efface nullement la faute, le crime. Dietrich Bonhoeffer, qui a été jusqu'au bout de sa vie terrestre sans dévier de la foi devant ses témoins, nous invite au-delà de la violence de la guerre à ne pas haïr l'ennemi et même à ne pas entrer dans la spirale vertigineuse d'une seule violence ou d'une seule vengeance. Donner et recevoir le pardon est bien la vocation du chrétien. Prier, pardonne-nous nos offenses que nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Que sont devenus ces mots du Christ dans notre vie individuelle, au-delà de l'avoir l'habitude de le répéter dans de notre Père. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous sont offensés. Savons-nous pardonner vraiment? Avec quels mots? Ne sommes-nous pas servis parfois par d'autres mots quand nous sommes un peu pris par, je dirais, la verve de la langue, où le mot, la phrase peut devenir une arme? Le Seigneur nous demande de laisser tomber les armes. Alors regardons-nous maintenant dans la glace de notre conscience et de notre foi. Quelle image nous renvoie-t-elle? Que nous demande le Seigneur? Sinon un changement radical pour inverser nos réflexes ordinaires de tous les jours, terribles réflexes de nos vies ou de notre quotidien, cette fameuse réflexe du talion qui nous fait rendre le mal pour le mal. Souvenez-vous quand la peine de mort était encore dans le code pénal, les cris de ceux qui réclamaient la mort de telle ou telle affaire, ou la foule qui venait voir, au XVIIIe siècle, les têtes tombées quand la peine était encore publique. Qu'avons-nous fait du don de la vie qui nous a été fait? Nous sommes souvent nos premiers, nos propres ennemis à nous-mêmes. Je pense que cette lecture doit nous permettre de nous questionner. N'avons-nous pas oublié de nous aimer? Face aux préceptes, ne prenons-nous pas conscience du peu de place que tient dans notre cœur la gratuité, la vraie, celle qui ne sera connue de personne, hormis de Dieu, de donner sans attendre en retour. Le Seigneur nous appelle à une autre réalité, à un amour vrai. L'amour vrai qui consiste, en fait, à faire vivre la vie, mais toute la vie. Aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien attendre au retour. En retour, votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut, car il est bon, lui, pour les ingrats et les méchants, nous dit Luc. Alors, j'en arrive à notre conclusion. Pour faire grandir le salut dans ce monde, Jésus a besoin de nous. Et c'est pourquoi il nous demande, à nous qui l'écoutons, de prendre finalement bien cette parole en compte, de rendre le bien pour le mal. Il ne nie pas que nous faisons face à des gens méchants ou ingrats. Ils existeront toujours. Mais il nous demande de regarder au-delà de leurs actes pour voir ce qu'eux-mêmes ignorent. Ce qu'il y a en notre ennemi, c'est aussi l'enfant de Dieu caché en eux. Il nous demande d'agir ainsi et de vivre notre vie les mains ouvertes, où nous devons, même si on veut tout nous prendre, où nous pouvons tout recevoir. Il nous demande de ranger notre calculette quand il s'agit des rapports humains. Ne pas calculer, réfléchir et investir dans les autres, mais de nous réjouir simplement de leur présence, même quand elle est parfois désagréable. Il ne nous demande jamais l'impossible, juste d'aimer un peu plus que de coutume. Aimer, c'est tout donner. Jésus ne prêche pas simplement, il vit ce qu'il dit. Parce que si nous lisons attentivement ce texte, il n'y a qu'un seul qui l'ait vécu jusqu'à la mort, c'est lui-même. Si vous aimez ceux qui vous font du bien, c'est facile de leur rendre l'appareil. Mais aimer sans attendre le retour de l'ascenseur, comme on dit familièrement, c'est bien plus difficile. Aimer son prochain en Dieu, c'est l'aimer d'un amour qui l'atteint au cœur de sa singularité. C'est l'aimer comme Dieu l'aime, de cet amour de Dieu qui le fait être et être tel qu'il est, avec un fond de personnalité qui n'appartient qu'à lui-même. Aimer l'autre, c'est l'aimer dans cette singularité, dans la beauté de cette singularité voulue par Dieu. Alors vivons-le comme un appel, comme un véritable encouragement. Dès que nous le pouvons, aimer celui qui se trouve sur notre route, quels que soient ses actes, et partageons aussi un peu de l'amour et de la lumière de Dieu, que nous saurons reconnaître en lui. Amen.